Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous continuons autour du péché, ce paragraphe de la chute. Là, je vois dans notre catéchisme, nous allons aborder bientôt un peu cette caractérisation du péché originel, comment ça s'est passé. Mais avant, il y a dans le catéchisme, alors il y a deux petites choses intéressantes pour lire le récit de la chute. Au 390, disant que le récit de la chute utilise un langage imagé, c'est intéressant de voir, parce que des fois, les langages imagés, où on dit il y a des mythes fondateurs, certains disent « ah oui, si c'est des mythes, ça ne vaut rien ». Je pense que les mythes nous renvoient à une profondeur de vérité que rien d'autre ne peut permettre, finalement. Et puis, il y aura la chute des anges. Alors, quelque chose aussi qui pour certains chrétiens, reste un petit peu curieux. Je me souviens d'une histoire quand je vois la chute des anges. Une histoire me revient immédiatement. J'étais dans un train, j'ai failli rater ce train, d'ailleurs. Je me suis assis là où j'ai trouvé une place. Et il y avait un jeune homme qui dormait déjà quand je suis entré dans le train, et qui au bout d'un moment s'est réveillé, et qui, quand il a vu donc, que j'étais un prêtre, me dit « Vous êtes prêtre ?» Oui. Il dit « Moi, je suis un ange déchu. » Ça a donné une conversation assez étonnante, assez succulente même d'ailleurs, mais assez profonde en réalité. Mais donc voilà, ça a toujours marqué « Je suis un ange déchu. » Donc voilà, nous parlerons de cette chute des anges. Qu'est-ce qu'il faut donc entendre donc ce langage et surtout cette réalité qui nous est dite, qui est dite à notre foi, la chute des anges?
Oui, l'Écriture prend des genres littéraires très différents, et les 11 premiers chapitres de la Genèse qui tentent de redonner une sorte de vision sur nos origines a choisi ce langage donc imagé. Et on peut parler d'une certaine forme de mythe, mais attention, non pas comme sont les mythes des païens, où très souvent l'idée est une sorte de théogonie ou de sorte d'engendrement des dieux avec une sorte de cycle qui est montré comme perpétuel. C'est un mythe ouvert qui donne une vision sur le commencement de l'histoire. Et le mot « histoire » est très important, car déjà se profile la succession des temps. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé à l'origine, eh bien nous avons besoin de comprendre que déjà le temps est créé. C'est une réalité créée, et il y a des successions, il y a des états différents. Et ce genre littéraire est à la fois historique, c'est-à-dire on nous demande qu'il y a un début, une continuité, une suite jusqu'à la fin des temps, et en même temps étiologique, c'est-à-dire qui nous donne un rapport aux raisons profondes qui expliquent les choses. Donc c'est à la fois étiologique et historique. Donc ça n'est pas un mythe païen tel qu'on rencontre dans les grandes légendes de genre Gilgamesh et autres, c'est une autre nature, et cela nous éclaire encore quand Jésus parle par exemple aux pharisiens ou aux scribes, il leur dit « il n'en était pas comme cela au commencement ». Et quand il dit « il parle du commencement », il se réfère au livre de la Genèse, parce que la Genèse nous élimine, nous permet de mieux comprendre la rédemption. Si on ne comprend pas la Genèse, on comprend difficilement la rédemption. La rédemption ne prend tout son étendue que lorsque on saisit qu'il y a eu des états antérieurs qui ont été perdus à cause de la chute des anges, à cause de la chute de l'homme, et que notre parcours donc est très différent une fois que l'on a compris qu'on a été illuminé par cette révélation. Alors pourquoi les anges ont été les premiers, je dirais, éprouvés? C'est tout simplement parce que c'était des natures purement spirituelles et qui pouvaient comprendre directement les enjeux du tout ou rien, qui était de suivre Dieu dans son projet d'amour bienveillant pour l'homme, ou au contraire se révolter. Et nous savons que certains se sont révolté, qu'il y a eu, comme dit la prophétie d'Ézéchiel, il y a eu une sorte d'orgueil chez ces êtres spirituels qui ont dit qu'ils ne serviraient pas le Seigneur. « Non te serviam », »,« Je ne te servirai pas ». Le diable et les autres démons ont été créés par Dieu naturellement bons, redit le catéchisme de l'Église catholique en citant le concile de Latran IV en 1215, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. C'est-à-dire, ils ont agi une fois de plus librement. Dieu ne peut créer que des êtres qui lui ressemblent libres, sinon il ne lui ressemblerait que très peu. Et il y a dans cette liberté des anges, eh bien, un fait de foi. Et c'est pour cela que l'Écriture parle du péché des anges, comme dans la deuxième épître de Pierre. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. C'est-à-dire, c'est un péché sans retour. Ça ne sert à rien de pécher pour la conversion des mauvais anges, parce que leur péché est radicalement pris dans l'être. Isaac de Ninive, un grand contemporain des pères de l'Église, et malheureusement, dans son courant nestorien, n'avait plus la forma mentis suffisante, la théologie, si vous voulez, de l'Église une sainte catholique et apostolique. Il était dans une périphérie et il a enseigné une fois qu'il fallait prier pour le salut des anges. Mais c'est une erreur, on perd son temps, ça ne sert à rien.
Oui, oui.
Ils sont dans l'être même, ils sont dans une situation de révolte et dans une situation d'opposition à Dieu.
Mais c'est quelque chose d'important à rappeler, effectivement, à cause de cette nature spirituelle.
À cause de cette nature spirituelle. Leur nature est si parfaite qu'une fois que leur choix est fait, eh bien, ça entraîne tout leur être. La grande tradition scolastique dit « agens sequitur » et c'est « l'agir suit l'être ». Mais pour des êtres qui sont parfaits, une fois que leur agir les a entraînés, cela entraîne tout leur être. Alors que nous sommes des êtres bien plus imparfaits. Et heureusement, notre agir, si vous voulez, peut se reprendre. Nous pouvons commettre un péché, nous reprendre, demander pardon. Nous avons un choix sans cesse à refaire à cause de la fragilité de notre volonté.
Nous sommes des êtres inachevés.
Nous sommes des êtres totalement
inachevés. Notre achèvement est en Dieu qui nous appelle,
et qui nous appelle
à la sainteté.
À la sainteté. Et en même temps, nous sommes dans une nature fragile qui est marquée entre spiritualité et matérialité. Nous avons un corps matériel. Et nous sommes dans la succession du temps, beaucoup plus fortement engagés dans cette succession du temps que les anges qui connaissent les voum, qui connaissent une durée, mais qui ne connaissent pas, comme nous, le tic-tac de l'horloge. Et nous sommes frappés par la fragilité, par la limite. Et le diable, donc, ne connaît pas cette situation, mais il a pu vouloir entraîner plus faible que lui dans la révolte. Pourquoi ? Sans doute par jalousie. La jalousie, c'est le livre de la sagesse qui le dit au chapitre 2, que la mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. La mort d'abord de lui-même, mais il a voulu entraîner d'autres avec lui. On sait dans l'Apocalypse au chapitre 12 que un tiers des créatures célestes sont tombées. Et il a voulu entraîner les hommes avec lui. Et il a suggéré à Ève du fait que si ils se rebellaient contre les ordres de Dieu, ils deviendraient par eux-mêmes Dieu. Vous deviendrez comme Dieu, dit-il à Ève. Et Ève, malheureusement, croit la parole du démon et transmet à son mari Adam la même faute, la rébellion, qui était une limite, une épreuve de la liberté, la limite qui était l'arbre interdit à toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il n'avait pas le droit de toucher, pas de toucher, mais de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève en rajoute en disant qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher, en fait, c'est pas ce que Dieu avait dit, et le démon en profite pour s'immiscer à ce moment-là dans le cœur d'Ève en lui disant « Non, c'est faux ». C'est vrai que ce n'était pas tout à fait juste ce que disait Ève. Ève disait, nous n'avons pas le droit d'y toucher, en fait, c'était pas ça. Ils n'avaient pas le droit d'en manger. C'est tout à fait différent. Et alors le démon a profité de cette faiblesse d'Ève, qui avait rajouté une sorte de haie autour de ce commandement de Dieu, une haie supplémentaire. Vous n'y toucherez pas, en se disant, si je n'y touche pas, je suis sûr de ne pas en manger. Mais c'était une naïveté. Il fallait mieux avoir le commandement de Dieu dans sa limite beaucoup plus directe. Cela lui aura donné beaucoup plus de force pour résister au démon. Alors le démon la prend au piège de ses propres conclusions trop personnelles, trop subjectives, et il la saisit au mot, en quelque sorte, et la fait tomber. Et bien sûr, cette chute entraîne, par amour qu'elle a pour Adam lui-même, qui avait reconnu en Ève la chair de sa chair, qui n'a pas pu se séparer d'elle et qui a commis la même faute, ils se sont laissés tous les deux entraîner dans la chute originelle. Et on voit la ruse du démon, vous voyez, qui prend un seul point et dit non aussitôt. C'est l'homme du non. Vous remarquerez souvent, les gens dans les discussions aiment bien dire tout à coup non. Tout simplement pour essayer de s'attaquer à ce que vous disiez, à ce que vous êtes en train de dire. Et il y a comme une sorte d'analogie avec cette lutte contre la lutte entre le démon et la race humaine.
Eh bien, de cette réflexion, je reste avec très pensif, finalement, en ayant entendu dire, je l'ai entendu plusieurs fois, parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais un tiers des créatures célestes sont tombées. Cette chute des anges, c'est une ampleur énorme.
C'est une ampleur énorme, oui. Et ça prouve l'immense liberté dont ils jouissaient, hein, parce qu'ils auraient pu faire comme les deux tiers, qui sont quand même la grosse majorité, et rester dans la bonté, dans la vision de Dieu qui leur était promise, et ainsi acquérir une liberté sanctifiée. Voyez, c'est au début du chapitre 12, un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème, sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Voyez, ce tiers, et l'interprétation des pères a été de dire le tiers des anges, malheureusement, est tombé avec cette épreuve de la liberté.